Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Rome se prépare à accueillir des centaines de milliers de pèlerins et des dizaines de délégations officielles pour la double canonisation du 27 avril. Un événement planétaire qui suscite dévotion, enthousiasme, une multitude de commentaires et d'initiatives en tout genre, mais aussi une certaine inquiétude au sein de la mairie et de la population. Un événement qui occupera une large place dans ce magazine. Le pape François, quant à lui, a lancé un nouvel appel contre le fléau du chômage ce mercredi. Il a appelé les employeurs à ne pas rester passifs. Il y a trouvé des solutions et des idées. Le pape François s'est insurgé ce mercredi contre les gaspillages et la crise économique qui ont de graves répercussions sur l'emploi. Au cours de l'audience générale hebdomadaire devant des dizaines de milliers de personnes massées sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père a évoqué le message vidéo triste et émouvant qui lui a été adressé par un groupe d'ouvriers italiens d'une usine sidérurgique qui a décidé de fermer ses hauts fourneaux.
Per favore, aprite gli occhi.
Ouvrez les yeux et ne restez pas les bras croisés, a-t-il lancé à l'adresse des responsables de l'entreprise en leur demandant un effort de créativité et de générosité pour redonner l'espoir aux chômeurs. Ces ouvriers ne font que défendre leurs droits au travail pour vivre dignement et élever leurs enfants, a-t-il ajouté. Le pape François les a assurés de sa proximité et de ses prières, les exhortant à ne pas se décourager. Auparavant, le souverain pontife avait demandé à la foule de répéter à haute voix la phrase que l'ange prononce devant le sépulcre vide « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Bernard de Cotigny.
Cette question, il faut la graver dans les cœurs et les mémoires, car elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui, chaque fois que nous nous enfermons dans une forme d'égoïsme ou d'autocomplaisance, quand nous nous replions sur nous-mêmes après un échec, quand nous nous sentons seuls et abandonnés, emprisonnés par nos péchés, quand nous nous laissons séduire par les pouvoirs terrestres, la beauté et par les choses de ce monde, quand nous mettons nos espoirs dans les vanités mondaines, l'argent et le succès. Nous avons besoin d'entendre cette parole pour nous sauver de situations difficiles ou désespérées, ou bien lorsque nous oublions Dieu, alors qu'il est tout proche. Tant de fois, a relevé le pape François, nous cherchons la vie parmi des choses mortes qui passent et qui ne peuvent donner la vie. Elles peuvent nous procurer un peu de gaieté pendant une minute, un jour, une semaine, un mois, et puis... Le Saint-Père, qui avait choisi de consacrer sa catéchèse au mystère de la résurrection, a reconnu qu'il n'était pas facile de s'ouvrir à Jésus, d'accueillir la vie du ressuscité parmi nous. Et pourtant, le Christ ressuscité nous libère de la tristesse et nous ouvre à l'espérance. La semaine qui suit la fête de Pâques est celle de la joie, fondée sur la certitude que Jésus est vivant et agissant dans l'Église et dans le monde. Il renouvelle l'Église et la fait cheminer en l'attirant à lui.
Avant l'audience générale, le pape François avait rencontré les malades et les personnes âgées rassemblées dans la salle Paul VI à l'abri de la pluie. Le mauvais temps n'avait pas découragé les fidèles très nombreux sur la place Saint-Pierre, au-delà de la colonnade du Bernin. Comme à son habitude, le souverain pontife les a longuement salués à bord de sa jeep. Il est même descendu de son véhicule pour saluer un groupe de jeunes qui brandissaient des drapeaux argentins. Il a remercié tous ceux qui lui ont présenté leurs vœux pour Pâques et pour la Saint-Georges, fêté ce mercredi 23 avril. Continuez à prier pour moi et pour mon service à l'Église, a-t-il demandé. À l'audience générale, ce mercredi matin, le pape François n'a pas parlé des canonisations de dimanche prochain. Il a évoqué en revanche la béatification en fin de semaine dans le Piémont d'un martyr dominicain italien, Giuseppe Girotti, mort le 1er avril 1945 au camp de concentration nazi de Dachau, avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans. Le Saint-Père a rendu hommage à son témoignage chrétien héroïque. La béatification de ce grand homme risquait d'être occultée par la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Cyprien Viette.
Issu d'une famille modeste, d'une région rurale laborieuse et fidèle aux traditions, le père Girotti s'était spécialisé dans l'interprétation des écritures sacrées à l'Angelicum et à l'école biblique de Jérusalem, où il fut l'élève du père Marie-Joseph Lagrange. Tenu en haute estime pour sa vaste culture, il aimait aussi exercer le ministère sacerdotal parmi les pauvres. Lorsque commencent les persécutions des Juifs, il constitue un réseau de contacts pour leur venir en aide. Bravant tous les risques, il s'efforce de leur trouver des cachettes sûres et des faux papiers. Il sera dénoncé arrêté pour son activité contraire aux lois fascistes et nazies. À Dachau, il sera enfermé en tant que prisonnier politique avec un millier d'autres prêtres et religieux dans la cabane 26, où ses occupants parviendront à installer une chapelle de fortune. Une homélie sur l'unité des chrétiens prononcée par le père Gelotti à Dachau est connue aujourd'hui comme son testament spirituel. Un arbre a été planté en son honneur dans l'avenue des Justes à Yad Vashem, à Jérusalem.
Et ce jeudi soir à 18h, le pape François se rendra à l'église Saint-Ignace de Loyola, dans le centre historique de Rome. Il y célébrera une messe d'action de grâce pour la canonisation d'un de ses confrères jésuites, l'espagnol Joseph de Anchieta, missionnaire au XVIe siècle au Brésil, où il se dépensa sans compter en faveur des plus faibles et des autochtones. Joseph de Anchieta fut le premier à composer une grammaire et un catéchisme dans la langue des indigènes qu'il évangélisait. Il s'efforça de les soulager et d'élever leur niveau de vie aussi bien au plan humain qu'au plan social et moral. Aussi fut-il appelé par tous l'apôtre du Brésil. Le pape François l'a déclaré saint le 3 avril dernier par une procédure exceptionnelle dite canonisation équipollente qui permet au pape de lever l'obligation de miracle. Le pape François l'a déjà appliqué pour la canonisation du jésuite français Pierre Favre, cofondateur de la Compagnie de Jésus. Le cas de Jean XXIII est différent, il sera proclamé saint sans attendre un deuxième miracle, mais pas par décret. La cérémonie de canonisation aura bien lieu dimanche prochain. Jour J, mois 4, justement, la double canonisation du 27 avril approche, un grand jour pour l'Église dans le monde entier. Tout au long des journées qui nous séparent de cette date, nous vous proposons de réécouter la voix de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Aujourd'hui, vous allez entendre un extrait de l'appel lancé par Jean XXIII en français sur Radio Vatican le 25 octobre 1962. Quelques jours plus tôt avaient commencé les événements que l'histoire retiendra sous le nom de crise des missiles de Cuba. En pleine guerre froide, les services américains avaient découvert que les soviétiques avaient installé à Cuba des rampes de lancement et des missiles nucléaires dirigés vers les États-Unis. Le président John Kennedy opta pour la fermeté et ordonna le blocus de l'île. Le monde entier resta suspendu à cet équilibre de la terreur qui menaçait de se rompre et d'entraîner une véritable guerre nucléaire. La crise se désamorcera et ouvrira la voie à une ère de détente entre les deux blocs. Mais beaucoup ignorent le rôle joué par Jean XXIII et cet appel que je vous propose d'écouter.
Tandis que vient de s'ouvrir le deuxième concile œcuménique du Vatican, dans la joie et l'espérance de tous les hommes de bonne volonté, voici que des nuages menaçants viennent assombrir à nouveau l'horizon international et semer la crainte dans des millions de familles. L'Église n'a rien tant à cœur que la paix et la fraternité entre les hommes. Et elle travaille sans se lasser à les établir. Nous rappelions à ce propos le grave devoir de ceux qui portent la responsabilité du pouvoir. Et nous ajoutions la main sur la conscience, qu'ils écoutent le cri angoissé qui, de tous les points de la terre, des enfants innocents aux veillards, des personnes aux communautés, montent vers le ciel. Paix, paix. Nous supplions tous les gouvernants de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Ils éviteront ainsi au monde les horreurs d'une guerre dont nul ne peut prévoir quelles seraient les effroyables conséquences. Qu'ils continuent à traiter, car cette attitude loyale et ouverte a grande valeur de témoignage pour la conscience de chacun et devant l'histoire. Promouvoir, favoriser, accepter de pourparler à tous les niveaux et en tout temps est une règle de sagesse et de prudence qui attire les bénédictions du ciel et de la terre.
C'était un extrait de l'appel lancé par Jean XXIII en octobre 1962 au moment de la crise des missiles de Cuba. Le pape Jean XXIII, qui s'est souvent exprimé en français, avait une relation particulière avec la France. Son expérience de nonce apostolique à Paris de 1944 à 1953 lui avait permis de tisser un réseau étonnant. Il recevait à l'annonciature des personnalités de toutes sortes, artistes, prêtres ouvriers, ministres, ambassadeurs de tout pays. Cette expérience française lui donna aussi l'occasion de découvrir un pays déchristianisé dans de larges territoires, mais dans lequel l'Église menait des expériences pastorales originales, considérant villes ses campagnes comme des terres de mission. Son arrivée à Paris s'était pourtant déroulée en catimini et dans un climat de tension entre Rome et le nouveau gouvernement. Le général de Gaulle avait en effet exigé le départ du nonce précédent en raison de son accréditation auprès du régime de Vichy. Le père Daniel Moulinet, professeur d'histoire à l'Université catholique de Lyon, estime que cette séquence française dans la vie d'Angelo Roncalli lui a permis de mûrir sa réflexion qui le poussera, une fois devenu pape, à convoquer le Concile Vatican II.
Les raisons de la nomination de Roncalli à Paris demeurent quand même pour une part énigmatique. C'est Pie XII qui va aller chercher Roncalli. C'est vraiment un choix du pape, et Pie XII va revendiquer véritablement ce choix, qui apparaît quelque peu paradoxal, parce qu'en fait, il est simplement délégué apostolique en Turquie et en Grèce, ce qui est quand même un poste relativement subalterne. Pourquoi ce choix? Effectivement, Pie XII connaissait personnellement Roncalli, peut-être aussi le fait de se retrouver, disons, en Turquie, en Grèce, dans des pays où le catholicisme était bien loin d'être majoritaire, peut-être à ce moment-là est-ce considéré par le pape comme favorable pour Paris, dans la mesure où on est en train de découvrir que la France n'est peut-être plus tout à fait chrétienne.
Alors Roncalli arrive en France fin 1944 dans un pays traumatisé par la guerre. Les catholiques eux-mêmes sont divisés entre pétainistes et gaullistes. Comment Roncalli va-t-il parvenir à redynamiser l'Église de France?
Alors la plus grosse affaire, c'est la demande du gouvernement français de la démission forcée de 25 évêques qui étaient trop soumis aux demandes du gouvernement de l'État français. Alors Roncalli se retrouve en face de cette demande qui est une demande jugée à Rome absolument exorbitante. Le seul précédent dans l'histoire, c'est Napoléon qui, avant de signer le Concordat, va obtenir de Rome la démission forcée de tous les évêques. Mais on n'est pas dans la même situation, donc Rome ne l'accepte pas. Le gouvernement français va néanmoins avoir une action de sagesse en nommant une sorte d'enquêteur, une sorte de juge d'instruction pour instruire le dossier de ces évêques. Et au terme, eh bien, la négociation aboutira. Simplement, il y aura la démission de 5 évêques. Il faut dire que dans cet ensemble, vous aviez quelques incohérences. Vous aviez notamment sur la liste Mgr Piguet, évêque de Clermont, qui certes avait été très pétainiste, mais qui avait été déporté à Dachau. Donc, demander sa démission, alors qu'au contraire, revenant de Dachau, il était considéré pratiquement comme un héros dans son diocèse, c'était tout à fait incohérent. Roncalli aura des liens, et c'est ce qui va caractériser sa nonciature, avec tout le monde, qui n'a aucune exclusive, et il y a même d'anciens collaborateurs qui seront reçus par le nonce, ce qui va indisposer, bien entendu, de l'autre côté. Mais vous avez aussi des liens de cordialité qui se noueront entre le nonce et des hommes du gouvernement qui sont socialistes, radicaux socialistes. Par exemple, rencontre avec Édouard Herriot. Alors, il y a bien sûr des bons mots qu'on raconte, que la tradition raconte. Tous les deux étaient un peu ventripotents. Et il lui dit, oh, nous ne sommes peut-être pas de la même paroisse, mais nous sommes du même arrondissement. Là aussi, ça sera extrêmement étonnant. Une des choses assez extraordinaires, c'est que quand Roncalli quittera l'annonciature de Paris, il donnera une petite réception à laquelle il invitera les différents présidents du Conseil qu'il a connus. C'est vraiment la grande capacité relationnelle de Roncalli qui va se révéler là.
Alors justement, cette capacité relationnelle, il l'exerce aussi auprès de ses collègues ambassadeurs d'autres pays comme l'URSS. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce réseau qui lui permettra de construire cette vision originale des relations internationales qu'il déploiera ensuite une fois devenu pape?
Je crois que c'est très juste parce que il ne faut pas oublier que sous Pie XII, effectivement, l'anticommunisme était très fort et il était justifié parce que on est quand même au moment où se mettent en place les entre guillemets démocratie populaire en Europe centro-orientale, et là, eh bien, vous avez une persécution de l'Église. Donc Pie XII va combattre énergiquement le communisme. Roncalli, lui, eh bien, effectivement, va nouer des liens avec tous les ambassadeurs et même celui du RSS. C'est quelque chose qu'il avait fait également en Turquie, dans un contexte qui était extrêmement singulier, puisqu'on était dans un pays neutre, où il rencontrait aussi bien l'ambassadeur d'Allemagne que l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Donc, il avait noué des liens sans exclusive avec tous, et ça va se continuer quand il deviendra pape, bien entendu, puisque là-dessus, on notera une véritable inflexion par rapport à l'URSS, non pas au point de vue doctrinal, absolument pas, mais avec la conviction que s'il y a des hommes de bonne volonté, eh bien, on peut discuter. C'est quand même la conviction qu'il faut s'ouvrir, et là, on le verra formidablement dans l'année 1962-1963, à la suite de la crise de Cuba, et puis à l'époque donc de Pachem Interis. Ce sont des fruits de cette attitude comme nonce, d'une part à Ankara et d'autre part à Paris.
Un des paradoxes de Roncalli, c'est que lui n'était pas du tout un progressiste, et quelqu'un qui avait une vision plutôt traditionnelle de la liturgie notamment. Est-ce que les expériences qu'il a pu observer en France l'ont inspiré dans la démarche conciliaire quelques années après ?
Quelque chose à quoi il va être sensible, ça va être le cardinal Suard, archevêque de Paris. Suard va l'emmener en banlieue parisienne, va lui faire découvrir cette réalité, alors qui est une réalité un petit peu multiforme, où vous avez, vous savez, c'est l'époque à peu près où Gilbert Cesbron écrit son livre « Les saints vont en enfer », dans lequel vous trouvez l'expérience des prêtres ouvriers. Vous avez le cardinal Suard qui va essayer d'initier le nonce à ses expériences françaises. Là, il va voir cette laïcité, il va voir ses expériences pastorales, et c'est quelque chose qui va quand même le marquer. Il ne faut jamais oublier que la spiritualité roncalienne, c'est se laisser instruire par ses expériences. Considérer que Dieu l'instruit au travers de l'expérience de sa vie. Pendant le conclave, il y a un petit épisode intéressant, c'est le journaliste de Paris Match qui fait un papier sur le conclave après la mort de Pie XII, et il dit textuellement « Les intégristes n'ont pas de bons candidats, ils pourraient se rallier au cardinal Roncalli, patriarche de Venise, qui a été nonce à Paris et qui s'assied au bord du canal pour parler avec les gondoliers. » Il a fait le bon choix, le journaliste, hein, puisque effectivement c'est Roncalli qui sera élu, et il le note fort justement par l'aile conservatrice du conclave, mais il pointe bien l'aspect pastoral de Roncalli.
Le père Daniel Moulinet, professeur d'histoire à l'Université catholique de Lyon, interrogé par Cyprien Viette. Le Concile Vatican II, événement de grâce pour l'Église universelle, a permis au peuple de Dieu en Afrique d'amorcer un tournant majeur de son histoire. 50 ans après le Concile, l'Église d'Afrique profite de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II pour faire le bilan de la mise en œuvre du Concile sur le continent africain, en lire les signes des temps aujourd'hui et prendre des initiatives pour construire son avenir en continuité avec le magistère pontifical. Elle organise pour la circonstance un colloque qui réunira jeudi et vendredi à Rome des évêques, des théologiens et théologiennes africains, ainsi que des hommes et des femmes du monde de la culture. Parmi les intervenants, le cardinal guinéen Robert Sarra, président du Conseil pontifical Corunum, le cardinal Onayekan, archevêque d'Abuja au Nigeria, et le cardinal Laurent Monsengo, archevêque de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Jean-Paul II, on le sait, a mis la jeunesse au cœur de son pontificat et de nombreux jeunes ont répondu à son appel. C'est le cas du groupe d'adoration de la paroisse Sainte-Agnès à Rome, né dans la foulée du jubilé de l'an 2000. Depuis cette date, des jeunes vivants à Rome se retrouvent tous les jeudis soirs pour une messe, puis un temps d'adoration jusqu'à minuit. Pendant les canonisations, cette église située sur la place Navone, en plein cœur du centre historique de Rome, sera ouverte pour une adoration sans interruption. L'église sera également le point de ralliement pour tous les fidèles polonais venus pour les canonisations. Audrey vit à Rome depuis 10 ans. Elle nous explique ce que signifie cette adoration dans le contexte de la canonisation de Jean-Paul II.
C'est un genre d'aboutissement, parce que notre groupe de prière est né en 2000 pendant les Journées mondiales de la jeunesse pour répondre à l'appel que Jean-Paul II a lancé de mettre Jésus Eucharistie au centre de nos vies. Donc être nous un lieu de rendez-vous pour les pèlerins qui viennent pour sa canonisation, c'est un petit peu le moment clou de ces plus de 10 ans d'adoration eucharistique à Sainte-Agnès. Et c'est aussi un nouveau départ, parce que maintenant on aura un saint dans notre église. Jusqu'à présent, on avait un bienheureux, on aura un saint. Jean-Paul II serait très heureux de voir tous ces jeunes en prière, lui qui a toujours eu pour nous des désirs élevés, qui nous a toujours appelés à nous dépasser. Voir des jeunes qui étaient jeunes en 2000 et qui continuent à répondre à ses attentes, je pense que c'est une belle préparation pour la prière et la messe de canonisation. La prière, la jeunesse et Jésus Eucharistie au centre de nos vies, c'est une sorte de résumé du magistère de Jean-Paul II. On entend souvent cette phrase « les jeunes d'aujourd'hui ont envie de rien faire, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ». Mais aujourd'hui, il y a aussi des jeunes qui sont heureux, qui prient, qui ont envie de transmettre leur joie. Et voilà, c'est ça le message, en fait.
Une jeune Française qui vit à Rome, interrogée par Jean-Baptiste Cocagne. En Pologne, les fidèles prieront avant la canonisation devant le feu de la Miséricorde. Le feu du sanctuaire de la Divine Miséricorde sera porté dans les paroisses, communautés et institutions de toute la Pologne. Des jeunes de tous les diocèses l'ont reçu le 30 mars des mains du cardinal Dziwisz, ancien secrétaire de Jean-Paul II et archevêque de Cracovie. Renfermé dans des lanternes avec l'image de Jésus miséricordieux, la flamme a été portée le dimanche des rameaux dans toutes les cathédrales polonaises qui, à leur tour, l'ont distribuée aux délégués des paroisses. Une lanterne contenant la flamme de la miséricorde sera également placée près de l'autel du pape François le 27 avril sur la place Saint-Pierre. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.